des Amériques.
Bonjour Charlotte, merci. Il est 8h10 à Washington. America is back, promesse de Joe Biden, les États-Unis de retour sur la scène internationale. On va s'intéresser aujourd'hui à celle qui incarnera la diplomatie des États-Unis à l'ONU. Un assaut bien plus préparé qu'il n'y paraît. Un mois après l'attaque du Capitole à Washington, que sait-on ? On va tirer un premier bilan. Nous reviendrons aussi bien sûr sur le projet de nouvelle constitution dévoilé cette semaine en Haïti. Bienvenue à tous. Mais avant tout cela, ce breaking news, comme on dit aux États-Unis. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Après une nuit de débat au Sénat américain, un premier succès pour Joe Biden, la Chambre haute vient d'approuver le plan de 1900 milliards de dollars pour relancer l'économie.
We have taken a giant step to begin to fulfill our promise to the American people.
Un pas de géant pour honorer nos promesses envers le peuple américain, commente à chaud le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer. Après donc cette adoption sur le fil, 51 voix contre 50, Arim, avec le soutien de la vice-présidente Kamala Harris. Bien sûr, tous les journaux en parlent.
Oui, un vote essentiel pour permettre à Joe Biden de faire passer sa première grande mesure législative, écrit le Washington Post ce matin. Un vote qui montre aussi le rejet sans appel par les républicains de toute aide supplémentaire pour les Américains en cette période de pandémie. Le projet de loi sera maintenant envoyé à la Chambre des représentants, Michael, afin d'élaborer un texte commun, un processus ou une procédure plutôt qui pourrait durer encore quelques semaines, écrit le New York Times.
Arim, merci. Il n'y a pas que face à la pandémie que les démocrates et leur nouveau président promettent de faire autrement.
America is back. Diplomacy is back.
L'Amérique et la diplomatie sont de retour. Vous êtes le centre de tout ce que je compte faire, a dit hier Joe Biden au secrétariat d'État. Première administration que le président a choisi de visiter, l'occasion pour lui de définir les grandes lignes de sa politique étrangère, notamment une plus grande fermeté face à la Russie et face à la Chine. Arim, là aussi, beaucoup de commentaires.
Oui, le site d'information Daily parle d'un virage diplomatique que le nouveau président a entrepris par rapport à son prédécesseur. L'Amérique est de retour et la diplomatie est au centre de notre politique étrangère. Voilà une phrase qui résume le mieux la nouvelle approche de l'administration Biden, estime The Hill. Il y a du nouveau et de l'ancien dans cette première allocution majeure sur la politique étrangère, commente pour sa part le magazine Foreign Policy. Le chef de la Maison-Blanche a plaidé pour un retour du multilatéralisme des alliances, mais en même temps, il a présenté un nouveau critère pour la sécurité nationale, la prospérité de la classe moyenne. Avec ce discours teinté d'un certain populisme anti-Wall Street influencé par l'aile gauche du parti, le président souhaite faire oublier au reste du monde les années Trump et ériger à nouveau les États-Unis en leader en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, commente Foreign Policy.
Une politique, merci Arim, qu'incarnera aux Nations Unies Linda Thomas-Greenfield. Bonjour Karine Hutton.
Bonjour.
Correspondante de RFI à l'ONU, afro-américaine de 68 ans, LTG, comme on la surnomme, est une spécialiste de l'Afrique et des questions humanitaires. La Commission des affaires étrangères du Sénat a approuvé hier sa nomination. Elle doit encore l'être en totalité par la Chambre haute. Et si tel est le cas, eh bien, Carrie, LTG fera appliquer la diplomatie Biden à New York.
Oui, avec un plus grand engagement sur la scène internationale, aux côtés des alliés, comme l'a annoncé Joe Biden, la coopération et le multilatéralisme vont être à nouveau au cœur de la diplomatie américaine, notamment sur des dossiers comme celui de la pandémie, qui a été un point de blocage majeur plusieurs mois l'an dernier entre la Chine et les États-Unis, souvenez-vous. Premier contraste déjà avec l'administration Trump, Linda Thomas-Greenfield a annoncé le retour des États-Unis dans les institutions onusiennes, à l'OMS et au Conseil des droits de l'homme à Genève, qui avait été quitté sous Trump. Les États-Unis demanderont certainement des réformes, ce qu'ils peuvent faire en étant membres à nouveau. Elle a aussi affirmé que les États-Unis allaient payer leurs arriérés à l'ONU, car elle a bien compris qu'en laissant payer d'autres puissances à sa place, c'était en quelque sorte perdre du pouvoir d'influence à New York. Linda Thomas-Greenfield n'a surtout pas caché que le principal cheval de bataille américain, ce sera d'affronter la Chine, qui a pris beaucoup d'influence ces dernières années aux Nations Unies, bien plus en détail que ne le faisait l'administration Trump.
J'ai une longue expérience à propos de l'influence nuisible de la Chine, de ses stratégies pour endetter et piéger en Afrique et ailleurs. La Chine est un adversaire stratégique qui pose des défis à notre sécurité, à notre prospérité et à nos valeurs. La Chine viole les droits de l'homme, a des ambitions autoritaires qui vont à l'encontre de nos valeurs démocratiques.
Linda Thomas-Greenfield, qui a aussi plaider Carrie pour un engagement proactif en Afrique.
Oui, elle va pousser à ce que la diplomatie américaine marche sur les plates-bandes de Pékin agressivement sur le continent africain. Elle veut que les pays africains aient une autre option que celle de s'endetter auprès de la Chine. Et les États-Unis seront plus fermes aussi vis-à-vis de l'allié chinois, la Russie, alors que Vladimir Poutine a bénéficié d'une certaine clémence de la part de Donald Trump.
Alors, spécialiste de l'Afrique, elle a été ambassadrice au Libéria, elle a travaillé au Rwanda. Carrie, on lui reproche néanmoins de ne pas assez connaître les dossiers du Moyen-Orient.
Cela ne semble pas perturber tant que ça les spécialistes ici, d'abord parce que 2/3 de l'agenda du Conseil de sécurité concerne des dossiers africains. On voit plutôt d'un bon œil une ambassadrice qui saura gérer les missions de maintien de la paix et connaîtra déjà le terrain. Mais aussi, les spécialistes ne sont pas dupes. Le Moyen-Orient, la désescalade nécessaire avec l'Iran, le dossier Israël-Palestine, la Syrie, le Yémen, la Libye... Tout cela sera géré par Washington. On devrait d'ailleurs voir un changement de méthode radical si l'on en croit Richard Gowan, directeur ONU du think tank International Crisis Group.
Petit à petit, on va voir un grand changement côté américain. Avec la distanciation par rapport à l'usage des sanctions qui ont été beaucoup utilisées par l'administration Trump comme instrument pour punir les ennemis des Américains, dans le cas notamment de l'Iran ou du Venezuela par exemple. La nouvelle équipe de diplomates reconnaît que cette politique des sanctions n'a vraiment pas fonctionné dans la majeure partie des cas.
Et l'administration Biden promet aussi de reconstruire, on le disait, les relations avec les alliés, Carrie, alors que ces relations ont été ces dernières années assez endommagées.
Oui, Donald Trump a plutôt maltraité ses alliés traditionnels. Cela avait poussé des pays dans leur retranchement. Et à l'ONU, on a pu entendre un grand ouf de soulagement à l'annonce du résultat de l'élection et encore plus du côté du Canada ou des Européens. Pourtant, l'ambassadeur français aux Nations Unies, Nicolas de Rivière, espère que les Européens ne se précipiteront pas pour autant sous le parapluie américain.
L'administration Trump, paradoxalement, a finalement pas mal contribuer à ce que les Européens prennent conscience de cette nécessité d'autonomie, de souveraineté. Et là, le risque, c'est que le retour à une situation mieux connue fasse un peu baisser la garde aux Européens. L'enjeu, c'est pas tellement d'édifier quelque chose en rupture ou contre les États-Unis, pas du tout. Mais c'est plutôt d'être plus forts nous-mêmes, Européens, et puis à partir de là, de bâtir des partenariats avec les Américains, mais le faire aussi davantage sur nos propres termes, nos propres idées, nos propres intérêts, et non pas comme supplétif.
Donc on va suivre tout ça. Joe Biden l'a redit hier, « America is back », l'Amérique est de retour. Programme chargé pour un président qui doit aussi faire face à de grands défis sanitaires et économiques sur sa scène intérieure.
Et Linda Thomas-Greenfield doit encore être validée par l'ensemble du Sénat, je le disais d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Karen Houghton, correspondante de RFI aux Nations Unies. Revenons à la politique intérieure du pays. Après le Sénat, on est à la Chambre des représentants où l'affaire est tranchée, ça y est. L'élue pro-Trump, Marjorie Taylor Greene, est exclue des deux comités éducation et travail dans lesquels elle devait siéger. 230 voix pour, 199 contre. Mais ce qu'il fallait bien souligner aussi, c'est que seuls 11 représentants républicains se sont associés aux démocrates. Les thèses de la mouvance complotiste QAnon défendue par Marjorie Taylor Greene n'effraient pas le GOP apparemment, même si l'intéressé a fait amende honorable hier.
Les tueries dans les écoles sont clairement une réalité. Et je veux aussi vous dire que le 11 septembre a bien eu lieu.
Un cas révélateur, en tout cas, des tensions au sein du Parti républicain après l'attaque du Capitole par les pro-Trump. Bonjour Romain Le Maresquier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Demain, cela fera un mois tout juste qu'a eu lieu cet assaut meurtrier. On fait le point ensemble sur ce que l'on sait un mois après. Mais d'abord, peut-être Romain, rappelez-nous ce qu'il s'est passé exactement ce 6 janvier.
Eh bien, le 6 janvier, quelques heures avant que les élus américains ne certifient la victoire de Joe Biden, Donald Trump avait convoqué une manifestation à quelques pas du Capitole sous le slogan « Save America ». Une manifestation qui avait rassemblé un grand nombre de partisans du président sortant et auxquels les forces de l'ordre s'étaient, semble-t-il, préparées. Donald Trump a appelé au cours de son discours ses plus fervents soutiens à marcher en direction du Capitole, ce qu'ils ont fait. S'en est suivi les scènes auxquelles le monde entier a pu assister en direct.
Semble-t-il préparé, vous dites, Romain. Est-ce que ça veut dire que ce qui est arrivé au Capitole était prévu et avait effectivement fait l'objet d'une préparation en amont ?
Eh bien, c'est ce qui semble se dessiner, si l'on en croit les quelques informations qui circulent concernant les enquêtes en cours. Plusieurs groupes d'extrême droite, les fameuses milices, sont dans le viseur de la justice. Certaines, à l'image des Oath Keepers, les gardiens du serment en français, groupe qui lutte contre le gouvernement fédéral, mais qui dit défendre la Constitution américaine, auraient même commencé à planifier cet assaut dès les jours qui ont suivi le 3 novembre, le jour de l'élection présidentielle.
Et concrètement, Romain, comment ces milices s'y sont-elles préparées alors ?
Eh bien, selon des procureurs fédéraux, des exercices d'entraînement avec d'autres milices seraient tenus, notamment en Caroline du Nord et dans l'Ohio, ce qui démontre que ces différentes organisations ont tissé des liens. Actuellement, de nombreux responsables et membres de ces milices sont actuellement en détention ou sous contrôle judiciaire, dont une bonne partie sont des vétérans de l'armée, ce qui a d'ailleurs ouvert le débat sur la présence d'extrémistes au sein de l'armée américaine. Pas un jour ne se passe en ce moment sans que la justice n'annonce de nouvelles arrestations. Au total, plus de 180 enquêtes sont en cours et qui concerneraient pour l'instant plus de 180 personnes selon CNN. Et donc si l'on se base sur ces enquêtes en cours, on peut en effet parler d'une planification de ces événements.
Quelques 180 personnes, Romain, qui sont-elles ? Est-ce qu'il y a un profil général de ces personnes placées en détention qui se dégagent ou pas ?
Eh bien, la plupart sont des membres de ces fameuses milices. Ce mercredi, par exemple, un certain Ethan Nordehan a été arrêté. C'est l'un des hauts responsables de la milice des Proud Boys qui a défrayé la chronique ces derniers mois, car très active. Mais il y a aussi des Américains entre guillemets « lambda », car ils ne font partie d'aucune organisation, mais qui sont souvent présentés comme adhérents à des thèses conspirationnistes ou complotistes. Bref, il n'y a pas de profil type, même si les principales personnes visées par les enquêtes en cours sont pour la plupart des membres ou sympathisants de l'extrême droite américaine.
Bon, et pour terminer, Romain, une autre question. L'activité au Capitole, est-ce qu'elle a repris en cours normal ?
Eh bien, l'ambiance reste très très particulière un mois après, et les élus confirment avoir eu très peur ce jour-là, à l'image d'Alexandria Ocasio-Cortez, l'élue démocrate, qui a confié avoir pensé qu'elle allait mourir lors de ces événements, alors qu'elle était cachée dans un des tunnels sous le Capitole, tout comme la plupart des autres élus ce 6 janvier. Alors certes, le travail des législateurs a repris, mais dans une ambiance de méfiance entre démocrates et républicains. Au niveau de la sécurité, les choses ont également changé, avec des mesures renforcées, des forces de l'ordre qui ont d'ailleurs été très critiquées pour leur manque de réactivité. Ce 6 janvier, petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre, ce qui ne va pas pour autant effacer ce qu'il s'est passé, des événements gravissimes, quand même à le rappeler les démocrates.
D'autant que la semaine prochaine, merci Romain Lemaresquier, la semaine prochaine, mardi exactement, va s'ouvrir le procès en destitution lancé contre Donald Trump, qui est tenu responsable pour tous ces événements par les élus démocrates. On a appris hier d'ailleurs que l'ancien président n'assisterait pas et ne viendrait pas au Sénat, donc, qui sera chargé de le juger. Merci beaucoup, Romain.
RFI, o mundo mais perto de você.
Vous êtes toujours avec nous, Harim Lipol, de Journée Off. En Équateur, la campagne pour les scrutins législatifs et présidentiels de dimanche s'est terminée hier soir. Et on se demande, Harim, si à l'issue de ces élections, aura une influence ou pas sur les autres scrutins qui vont se tenir plus tard en Amérique latine.
Oui, exactement. C'est la question que se pose El Comercio ce matin pour le journal équatorien. La probable victoire du poulain de l'ancien président socialiste Rafael Correa, Andrés Arauz, pourrait consolider le virage à gauche sur le continent. Le quotidien rappelle que depuis 2018, trois pays, le Mexique, l'Argentine et la Bolivie, ont élu des gouvernements de gauche. C'est l'angoisse des milieux d'affaires en Équateur. Effectivement, que leur pays tourne également la page du conservatisme néolibéral en faveur d'un socialisme du XXIe siècle. Mais cette crainte n'est pas fondée, explique un politologue interrogé par El Comercio. Les héritiers de Rafael Correa ou de Cristina Kirchner en Argentine n'ont plus grand-chose à voir avec leur modèle politique, que ce soit Alberto Fernández en Argentine, Luis Arce en Bolivie ou peut-être Andrés Arauz en Équateur. Eh bien, ce sont tous des dirigeants moins clivants, moins idéologiques et qui provoquent de ce fait aussi moins de tensions avec la droite néolibérale.
Arim, merci. Et bien sûr, ces élections en Équateur, on va suivre ça sur RFI. On se donne rendez-vous lundi, au lendemain du vote, et peut-être déjà avec les premières tendances ou les premiers résultats dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec un invité pour décrypter tout cela. On termine notre tour de l'actualité avec le projet de nouvelle constitution qui a été présenté mercredi en Haïti, en pleine querelle sur la date de départ du président Moïse dimanche, le 7 février, ou bien le 7 février, mais de 2022. Les oppositions ont déjà, elles, fustigé ce texte présenté, ainsi que la commission qui a été nommée unilatéralement par le chef de l'État pour sa rédaction. Écoutez ce qu'en dit Camille Chalmers, il est porte-parole de la plateforme pour le développement alternatif.
Nous sommes indignés par la publication de ce projet de constitution. Tout ceci est le résultat d'un processus lorsque l'extrême droite, représentée par Michel Martelly, puis par Jovenel Moïse, est arrivée au pouvoir. Un des projets était de détruire tous les acquis démocratiques qui avaient été conquis par le peuple après la chute du dictateur Duvalier. Cette constitution représente un retour en arrière et en plus, le processus de rédaction de cette constitution est inacceptable avec 5 personnes désignées par le président. Ce n'était pas une assemblée constituante, ils n'ont aucune légitimité. Ils ne représentent aucun pan de la société. Ils ne peuvent pas prendre le luxe de rédiger une constitution pour Haïti. J'insiste, c'est un retour en arrière qui ne sera pas accepté. Le peuple haïtien ne va pas accepter ces manœuvres.
Le porte-parole de la plateforme pour le développement alternatif, mouvement d'opposition en Haïti, des propos recueillis par Natalia Olivares. À Port-au-Prince, il est 8h26.
Le journal de l'Outre-mer.
Pour terminer, bien sûr, comme chaque jour, et c'est avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Vous nous emmenez-vous en Guadeloupe, où le centre hospitalier de Basse-Terre, vous nous dites, dispose enfin, désormais, d'une réserve d'eau potable.
Eh oui, potable, car de l'eau, il y en avait, bien sûr, avant, mais pas toujours de très très bonne qualité, ce qui était quand même le comble pour un hôpital. Alors l'ARS, l'Agence Régionale de Santé et l'Office de l'Eau ont financé l'installation d'une réserve de 100 mètres cubes, de quoi tenir 3 jours. Christine Willem est la directrice du CHBT, elle est au micro de Ronan Poney.
Nous avons eu énormément de soucis avec l'eau au fil des années. On a eu une eau pas potable, pardon, avec des infections, des germes bactériologiques dans l'eau. Donc, on a vraiment été en difficulté. Et puis, c'était un projet qui était né il y a une longue date, mais qui a mis beaucoup de temps à se mettre en œuvre. On a mis 18 mois à la construire. C'est une cuve quand même qui est en inox, donc c'est quelque chose qui était délicat à réaliser. C'est une bâche à eau donc qui fait 100 mètres cube et qui va nous permettre de tenir 3 jours. C'est une réserve d'eau, il y a une maintenance, effectivement. Et si vous voulez, la particularité, c'est que le réseau coule dans la bâche à eau, c'est-à-dire que c'est une eau qui est renouvelée constamment. On aura vraiment une eau qui sera de qualité conforme et dans la durée, puisqu'on a eu des boues, on a eu des germes, enfin, on a tout eu. Et c'est très mauvais aussi pour les appareils type autoclave de stérilisation, d'avoir de l'eau boueuse, par exemple. On va tenir 3 jours en toute autonomie.
Direction maintenant la Guyane, où, sans surprise, l'équation test PCR négatif plus motifs impérieux plus septaine, etc., a abouti au même résultat que partout ailleurs. Ce résultat, eh bien, c'est le directeur de l'aéroport Félix Eboué qui l'explique. Il s'appelle Olivier Taomi, il est au micro de Patrick Clark.
On a eu moins 40% de taux de remplissage dans les avions. Ça, c'est les chiffres qui m'ont été communiqués par Air Carib, par exemple. Et ensuite, on a eu des délestages et surtout des annulations de vols. Par exemple, là, pour les Antilles, on a beaucoup moins d'avions. On avait 10 avions au mois de décembre, on n'en a plus que 4. Pour Paris, Air France, on avait 7 avions, on n'en a plus que 5. Air Carib est en train de réduire. Donc, on a en fait une double peine. On a non seulement une baisse du taux de remplissage, mais on a aussi une baisse des vols. Et le tout cumulé fait une chute assez importante de l'activité. Les avions sont en partie vide. Les vols ne sont pas pleins, loin de là, mais les compagnies maintiennent les vols parce que d'abord il faut que les avions volent, il faut que les équipages travaillent, ça faisait plusieurs mois qu'ils n'avaient pas travaillé, mais aussi il y a la mission de service public à remplir, en tout cas pour Air France, et donc ils essaient de maintenir les vols, mais nous attendons encore un affaissement à la fois de la fréquentation et du nombre de vols, c'est une évidence.
Bon après-midi, bon week-end, Michael. À lundi.
Merci à vous, Benoît Ferrand, et aux équipes de la première. Très bon week-end à vous et à tous nos auditeurs du journal d'Haïti et des Amériques. Il est à retrouver sur RFI.fr, mais aussi sur notre compte Twitter RFI Amérique. Hélène Avril était à la réalisation. À la semaine prochaine.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Couleur tropicale, Claudiciard.